Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet, votre podcast rugby à retrouver chaque jeudi sur toutes les bonnes plateformes d'écoute et en vidéo sur eurosport.fr et rugbyrama.fr. Est-ce que vous le sentez? Ça, c'est le parfum unique, inégalable, celui des phases finales. On y est cette fois, ça y est. Castres et Montpellier sont au repos, l'esprit déjà tourné vers les demi-finales à Nice. La semaine prochaine, les autres, eux, vont devoir ferrailler en barrage. Et évidemment, nous allons en parler longuement avec notre légende Imanol Arinordoki. Salut Imanol, je suis sûr que je t'ai manqué ces dernières semaines.
Bonjour messieurs, oui Olivier, tu nous as extrêmement manqué.
Ouais. Bon, t'es en forme hein, pour mon retour, j'espère que tu vas fêter ça dignement.
Et en forme pour les phases finales, bien entendu.
Et pour eux aussi, c'est bientôt l'heure du dénouement. Ils préparent leur plus belle plume afin de vous conter cette course au bouclier. Simon Valzer et Arnaud Beurdelet du Midi Olympique. Salut les gars.
Salut Olive.
Salut tout le monde.
Alors messieurs, Stade Toulousain-La Rochelle samedi, UBB Racing dimanche. Ce sont donc les deux affiches en barrage. Fort de leur titre européen, les Rochelais en ont-ils fini avec le complexe toulousain? Ce sera la première question. C'est vrai, la bande d'Antoine Dupont reste sur 6 victoires consécutives et notamment les deux finales l'an passé. Alors, est-ce enfin l'heure de la revanche? On en parlera dans la première partie. Après sa défaite à Perpignan le week-end dernier, l'UBB a laissé filer une place de demi-finaliste qui lui semblait promise, ce qui a provoqué la colère du manager Christophe Furios. Ce barrage à domicile contre le Racing a donc tout d'un piège face à des Racingman inconstants, c'est vrai, mais fidèles comme toujours au rendez-vous des phases finales. Alors Bordeaux en danger, on tâchera d'y répondre. Et puis on terminera par l'Access Match, ce barrage avec pour enjeu une place en top 14. Mont-de-Marsan reçoit Perpignan dimanche, mais dans quel état? Comment rebondir une semaine seulement après avoir été balayé par Bayonne en finale de Pro D2? L'exploit est-il possible pour les Landais? Vous l'avez compris, c'est un programme chargé à rébuffer. On y va. Stade Toulousain, La Rochelle. Sacré barrage entre les deux derniers champions d'Europe. Les chiffres pour l'instant sont largement favorables aux Toulousains qui ont gagné les 6 derniers matchs, dont évidemment les deux finales disputées l'an passé. Imanol, j'avais une question pour toi. Est-ce que ces défaites répétées ne vont pas commencer à marquer quand même les Rochelais malgré leur nouveau statut de champion d'Europe? Est-ce qu'on peut parler de complexe, selon toi?
Non, je ne pense pas forcément un complexe, mais je pense que c'est surtout quelque chose qui doit les agacer. Et quelque part, c'est un bon levier pour eux, parce qu'après avoir été champion d'Europe, il faut toujours retrouver des leviers de motivation. Et ça en est un fort, parce qu'en plus, eux, ils le savent forcément, à l'intérieur du groupe, mais aussi tout le monde leur en parle autour. Donc, c'est peut-être pour eux le moment de dire stop, sauf qu'en face, il va y avoir le Stade Toulousain qui se prépare aussi pour ce match, qui a envie d'en découdre. Voilà, donc ça va être deux oppositions de style hein, pour le Stade Toulousain. L'envie de montrer qu'ils sont encore au niveau et l'occasion pour eux de battre le champion d'Europe en titre. Et pour La Rochelle, l'occasion de montrer qu'ils ont changé de statut après avoir perdu deux finales contre Toulouse l'an passé, gagner aujourd'hui le titre de champion d'Europe, assumer aussi ce nouveau statut. Donc, ça va être intéressant de voir comment les Rochelais vont assumer ce nouveau statut. Mais
il n'y a pas d'ascendant psychologique pour toi?
Pour moi, non, il n'y a pas d'ascendant psychologique parce que voilà, ce sont deux équipes avec deux spirales différentes, deux dynamiques différentes. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de favoris vraiment sur ce match. Pour moi, c'est vraiment la grosse affiche de ces barrages.
Et alors, pour une fois n'est pas coutume, je vais être d'accord avec Imanol. Pour moi, il y a zéro complexe de la part des Rochelais aujourd'hui, mais ce n'est pas lié aux 6 défaites consécutives contre le Stade Toulousain, c'est lié à cette victoire en Coupe d'Europe. La Rochelle restait sur 3 finales perdues. On commençait à dire que c'était le nouveau Clermont. Mourad Boudjelal, dans sa chronique, se moquait régulièrement des Rochelais. Les médias en remettaient tous les jours un petit peu plus dans la tête des Rochelais. Parce que en faisant notre travail, en leur posant cette question, est-ce que ça vous pèse de perdre des finales? Est-ce que ça vous pèse? Est-ce que ça vous pèse? Bah, finalement, ça pèse. Là, ils ont réussi à battre le grand Leinster à Marseille en finale de Coupe d'Europe. Ils ont zéro complexe. En revanche, là où je ne suis pas d'accord avec Imanol, ce serait dommage quand même d'être toujours d'accord, c'est que pour moi, il y a un favori. Et ce ne sera pas les Rochelais, pour moi, ce sera le Stade Toulousain. Parce que les Toulousains vexés vexés d'avoir abandonné leur titre de champion d'Europe, vexés, on l'a lu hein, en creux dans les propos du président Didier Lacroix, d'avoir été un petit peu mis au banc par le PCR avec ses matchs annulés lors de la phase préliminaire de la Champions Cup. Bref, des Toulousains qui sont morts de faim, qui sont probablement un peu plus frais que les Rochelais qui ont très largement fêté leur titre de champion d'Europe, qui ont joué probablement un peu sur les nerfs cette dernière journée face à Lyon. Je pense que les Rochelais n'auront aucun complexe, mais le Stade Toulousain va l'emporter.
Moi, je dirais que la grande question que je me pose, c'est de savoir jusqu'à quand cette euphorie rochelaise va les porter, parce que je commence vraiment à me poser la question de la dimension physique. D'ailleurs, je n'avais pas été surpris par leur première mi-temps à Lyon la semaine dernière, où ils avaient été vraiment bousculés par cette équipe lyonnaise. Mais après, j'ai vraiment été impressionné par leur deuxième mi-temps. Et j'ai l'impression que cette équipe rochelaise, qui a réussi à s'imposer à Lyon quand même et à faire sortir Lyon des phases finales, ma grande question, c'est de savoir jusqu'à quand ça va les porter. Et c'est vrai, comme disaient mes deux chers collègues, ils vont tomber sur une équipe toulousaine extrêmement revancharde contre qui ils ont quand même voilà, ils ont ces séries de défaites. Alors, je suis d'accord avec Arnaud, je pense que ce titre de champion d'Europe, ça a remis les compteurs à zéro. Mais quand même, quand on perd six fois de suite contre une équipe qu'on sera certainement plus fatigué et qu'il se passe un truc qui n'est pas prévu, bah là, il faudra quand même des sacrées ressources au Rochelais pour vaincre ce Stade Toulousain. Même si, moi, je verrais plutôt les Rochelais légèrement favoris.
Ah oui, pour toi, Emmanuel, la fraîcheur physique, elle sera déterminante. On rappelle que les Toulousains, eux, ont pu se reposer hein, après leur élimination en demi-finale de la Coupe d'Europe et puis qu'ils n'ont pas eu un match compliqué à jouer là, le week-end dernier en top 14. Hein. Ils ont pu faire tourner très vite face à Biarritz.
Ben encore plus dans cette confrontation qu'on connaît bien maintenant entre La Rochelle et Toulouse, qui sont deux équipes ultra dominatrices dans le secteur du combat, du jeu au sol. Et forcément, quand il y a bataille au sol, il faut avoir des ressources mentales, mais surtout physiques. Il faut être frais, il faut tenir la cadence, parce que ça va cogner très, très dur. C'est vraiment l'équipe qui lâchera les quelques centimètres qui sont précieux pour aller chercher une victoire qui perdra ce match. Donc ouais, là, bien sûr que l'aspect physique, il va être quand même très, très important sur cette rencontre.
Ouais, Xavier Garbajosa, hein, dans les colonnes du middle, pour abonder dans le sens d'Imanol, dit demain dans une interview donc à paraître dans Middle que La Rochelle a le plus gros paquet d'Europe et qu'à force de prendre Winnie Antonio, de prendre Dani Prizo, de prendre Botia, de prendre Aldrit dans la courge ou Skelton accessoirement voilà, ça use physiquement et que le Stade Toulousain est probablement la seule équipe armée aujourd'hui pour rivaliser dans ce domaine-là.
Et oui, c'est ce que j'allais dire. Toulouse, ils n'ont pas à rougir de la comparaison physiquement.
Je pense que les Rochelais, je parle sous le couvert d'Imanol, mais je pense que les Rochelais sont même un ton au-dessus. Ce qui fait la différence peut-être au Stade Toulousain, c'est cette charnière absolument géniale qui a des super pouvoirs, qui est capable de faire la différence à tout moment. Et là, pour le coup, il y a un vrai gap entre la charnière toulousaine et la charnière rochelaise, qui en plus est amputé de Carbarlo, donc même si le petit Bergeon a fait une très très belle finale de Coupe d'Europe, mais la dimension physique sera prépondérante dans ce match de barrage.
Ouais, si je vous écoute, ce sera extrêmement serré a priori. Bon, je vois Arnaud, toi tu mets légèrement les Toulousains devant, Simon lui met légèrement les Rochelais. Bon, c'est vrai que quand on regarde les deux confrontations de la saison, ça s'est joué à quelques points à chaque fois. On est parti sur le même scénario. C'est vraiment deux équipes très proches, trop proches pour sortir un clair favori. Même si Toulouse va évoluer à domicile quand même, c'est pas rien.
Il y aura l'avantage du terrain et du soutien du public qui va être très chaud forcément à Toulouse et qui va aussi porter son équipe. Maintenant, voilà, on a toujours vu que c'était serré dans les confrontations entre ces deux grands d'Europe.
L'expérience, elle est quand même du côté toulousain, même si les Rochelais viennent de remporter un titre, non ?
Moi, je pense que ça va une fois de plus cogner très fort et… Et peut-être, contrairement à la finale contre Leinster, je pense que les buteurs auront un rôle quand même prépondérant dans cette rencontre. Ça a été le cas lors des deux finales l'an passé. Ça a été le cas aussi lors de la phase de championnat cette saison. Donc, avoir la forme des buteurs sur cette rencontre, sachant que pour le coup, même si sur la dimension physique, je pense qu'il y a un avantage pour La Rochelle, qui est vraiment un paquet quand même très, très dense. Les Toulousains ont beaucoup de dynamisme. Il fera aussi peut-être chaud ce week-end. Ils annoncent très chaud aussi à Toulouse, donc ça peut jouer. À voir maintenant la forme des
ça joue sur quoi la chaleur?
Après ça le match était à 21h, hein, Emmanuel, quand même.
Ça joue sur les organismes, ouais, mais à Toulouse, je crois qu'ils annoncent quand même 30 et quelques degrés. Quand il n'y a pas trop d'air, ça, il peut faire quand même un peu chaud. Et en général, quand il fait chaud, ça a le temps pour les gros. Donc, ouais, mais c'est vrai que c'est mieux que le match soit à 21h. Mais voilà, pour revenir sur mon propos, avoir la forme des buteurs, sachant que du côté toulousain, s'il y a une défaillance au but, voilà, il y a toujours des suppléments. Il y a.
Ramos, c'est quand même un buteur très fiable.
Il y a Ramos qui est un buteur hors pair. Il y a aussi Antoine Dupont qui peut prendre le relais. Il y a moins de cartouches du côté de La Rochelle. Donc, est-ce que ça se jouera là-dessus? Pour moi, c'est pas possible.
Surtout, West a souvent failli hein, dans les moments importants face aux perches. Hein.
Oui, mais maintenant, c'est moins le cas.
Là, il s'est soigné, là.
Il s'est soigné. Mais enfin, on n'est pas à l'abri. Enfin, je dis, c'est soigné. C'est tout récent. Hein. Je vous rappelle les épisodes passés ou pas? Parce qu'il a fait perdre. Enfin, il a
montré
perdre
sa force de caractère.
Il n'a pas fait gagner son équipe.
Oui, mais il a montré sa force de caractère justement en répondant à ses détracteurs en finale.
À voir. Mais moi, j'attends parce que j'ai un message de Marc Duzan qui, pour parier, attend le pronostic d'Imanol Arénor-Doty.
Ah, pas facile ça. Imanol, c'est vrai que toi, tu paries sur la victoire de.
Marc Duzan, grand reporter en Midi Olympique, qui veut parier 100 euros sur une des deux équipes. Qu'est-ce que tu nous conseilles, Imanol?
Et je ne vais pas me dégonfler. La semaine dernière, j'ai dit que je voyais bien les Rochelais faire un doublé, même si ça va être très, très compliqué. Donc, pourquoi pas.
Donc, ah oui, d'accord.
Mais c'est le pronostic vraiment…
C'est la grosse cote.
Très objectif. Très objectif. Voilà.
C'est pas le cœur qui parle.
Et ayant joué à Toulouse, forcément que mon cœur balance pour… Pour les Toulousains.
Les Toulousains qu'on n'a pas trop entendus. Hein. On a moins parlé médiatiquement parlant du stade toulousain ces dernières semaines et pour cause, hein, puisqu'ils ont été éclipsés de la Coupe d'Europe par la performance des Rochelais. Mais c'est vrai qu'on les a moins mis en avant. Ça en fait peut-être une équipe encore plus menaçante, je dirais, non?
Ah, moi, je crois qu'ils vont être morts de faim, les Toulousains. Je pense que là, Hugo Mola, connaissant un petit peu le fin psychologue qu'il est, fin connaisseur de la nature humaine, il a dû les piquer bien comme il fallait. Je suis persuadé qu'il aura filé toutes les coupures de journaux à la gloire du stade Rochelet, là, je pense que les mecs ils vont arriver avec la bave aux lèvres. Enfin, ça risque d'être un carnage, hein, d'ailleurs. Hein. Moi, je ne mettrais pas un orteil, même pas un cheveu, d'ailleurs, j'en ai plus, mais dans un rock samedi soir au milieu de ces mastodontes. Hein.
Au milieu de Skelton et Méafou, ça va être sympa, non. Le premier rock, là.
Bon, on aura la réponse samedi, ce sera à 21h, mais on est d'accord, évidemment, que c'est le match phare du week-end qui éclipse quelque peu l'autre affiche. Ouais,
sans parler du Racing ou de Bordeaux, on va pas se mentir, on va me dire que je manque de respect aux autres équipes et tout, mais sur le papier, c'est la finale de rêve pour les médias, pour les supporters, pour l'ambiance, pour tout. Mince, pardon, j'en perds mon stylo.
Mais ça doit agacer quand même.
Pour
ça doit
agacer mais oui, quand ça agace tout le monde, notamment les Castrés qui finissent premiers et qui sont totalement légitimes à finir premiers. Mais sur le papier, médiatiquement, c'est beaucoup plus sexy. Comment l'expliquer? J'en sais rien. Ah bah mais si, c'est beaucoup plus sexy, une finale Toulouse-La Rochelle. Voilà,
c'est par leur palmarès, ça s'explique largement. Donc voilà pour ce premier barrage. Maintenant, on va pouvoir parler de Bordeaux Racing. C'est dans une drôle d'ambiance que l'Union Bordeaux-Bègles recevra le Racing dimanche en barrage, troisième de la saison régulière. Les Bordelais ont laissé filer une place en demi-finale après leur défaite à Perpignan. Christophe Furios, lui, a eu des mots durs sur la deuxième partie de saison. Nous ne sommes pas invités dans le top 2, on n'est pas assez sérieux. Il s'en est pris à quelques-uns de ses cadres, notamment ses internationaux. Cameron Wauki, je ne le vois pas. Mathieu Jalibert, je ne le vois pas. C'est dire toute la tension, toute la pression qu'il y a autour de cette équipe avant le barrage du week-end. Imanol, est-ce que Christophe Furios a eu raison de s'en prendre ainsi à ses cadres après la défaite à Perpignan? D'après toi, ça relève de quoi? C'est de la stratégie? C'est plutôt où il y a un vrai doute dans cette équipe? Ça marche comme ça de piquer ces joueurs?
Quand ils ne sont pas au niveau, forcément, ça marche parce que je pense qu'il connaît bien ses joueurs, notamment comment ils peuvent réagir face à des attaques comme ça. Et s'il le fait, c'est pour les piquer au vif et il sait qu'ils vont répondre présents ce week-end. Voilà, parce que ce sont des joueurs dont il a besoin. Hein. Ce sont des joueurs qui ont porté l'UBB quand ils sont revenus notamment de l'équipe de France. Je pense à Cameron Wauki qui marchait littéralement sur l'eau. Jalibert aussi, dont on attend beaucoup. Donc, et puis ça envoie un signal fort aussi à leurs coéquipiers parce que forcément, quand on tape sur les têtes d'affiche, eh bien, tout le monde se met aussi au diapason et au pli. Donc, ouais, je pense que les Bordelais, quand même, ils seront prêts. Ils vont pas passer à côté de ce match qui s'annonce aussi serré parce que le Racing, même si leur saison aussi a évolué en dents de scie, c'est une équipe de phase finale qui aime ses matchs couperets et qui est capable aussi de se révéler dans les grands moments.
Toi, ça marchait sur toi, ça, quand on te piquait comme ça après les matchs?
Moi, ça marchait plutôt très bien, ouais. J'aimais pas trop ça, donc comme j'avais du caractère et comme je suis quelqu'un de fier, ouais, ça quand me piquait au vif en général devant tout le monde. En plus, ça piquait bien. Et je ruminais bien pendant une semaine, ouais. Donc
ça, c'est le talent aussi des joueurs qui sont bouffés d'orgueil. Et Emmanuel en faisait partie. Emmanuel, il détestait quand il se faisait critiquer dans les journaux. Et vous pouvez être sûr que la semaine suivante, il sortait un match de dingue.
Quand tu es un champion, tu as un ego. Hein,
voilà. Et je ne connais pas le résultat de ce match de barrage entre le Racing et Bordeaux, mais je suis prêt à parier comme Marc Buzan 100 euros que Mathieu Jalibert et Cameron Wauki vont sortir un match énorme. J'en suis convaincu parce que Mathieu Jalibert, il a cette graine de champion, il a cet orgueil, il a cette prétention, il a un peu d'arrogance. Il a tout ce qu'il faut pour répondre aux attentes de Christophe Furios. Et si Christophe Furios a fait ça, il sait ce qu'il fait, Christophe Furios. Il sait exactement ce qu'il fait. Peut-être même que c'était préparé avant match et que le match a renforcé son envie de le faire. Mais il sait qu'en faisant ça, ces deux joueurs-là, dimanche soir, ils vont répondre présent.
Restons un peu sur l'UBB parce que c'est quand même un paradoxe. Troisième, ça reste une bonne place, troisième de la saison régulière. Ils reçoivent en barrage, ce qui est un avantage. Et pourtant, donc, on ne sent pas vraiment de sérénité. C'est vrai que quand on regarde les résultats depuis plusieurs mois, je regarde les chiffres, 3 victoires sur les 11 derniers matchs de top 14. Les Bordelais n'ont plus enchaîné 2 victoires de rang depuis le mois de janvier. C'est la preuve quand même que ce n'est pas une équipe qui est sur une bonne dynamique, Simon.
Non, clairement, bien sûr, ils ont du mal à confirmer. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Ils soufflent le chaud et le froid, mais c'est exactement la même chose pour le Racing. Et puis, ça fait longtemps qu'on pensait que la machine était repartie. Ils avaient remporté une victoire qui leur avait vraiment fait du bien, ces Girondins, et boum, ils retombent dans leur travers à Perpignan, avec notamment, moi, l'image que je retiendrai de ce match, c'est cette dernière touche de l'UBB où on voit qu'en fait, il y a une énorme cacophonie, personne, le ballon est lancé, mais les lifteurs, les sauteurs se regardent et finalement, ce ballon est contré sans le moindre problème par l'alignement catalan, alors qu'on avait quand même une équipe qui était voilà, dans le top 2, avec, connue en plus pour sa qualité en touche. Et à ce moment-là, ils se prennent les pieds dans le tapis et ils laissent filer cette victoire à Perpignan. C'est pour ça que cette équipe, elle voit bien qu'elle n'est pas en confiance. Et Christophe Furios, il l'a dit là, dans la semaine, il n'a toujours pas son 15 de départ. On est mercredi, on est jeudi, il n'a toujours pas son 15 de départ. Alors que moi, pour avoir travaillé avec lui pendant quelques années, je peux vous dire que le 15 de départ, il était fait même souvent quasiment deux semaines à l'avance. Et ça, c'est pas normal. Et ça montre qu'il n'a pas encore des certitudes sur son effectif. Cet effectif-là, j'ai l'impression qu'il l'apprivoise toujours. Il sait qu'il est capable de beaucoup, mais il sait aussi qu'il peut le surprendre, dans le bon et dans le mauvais sens. Et c'est pour ça que c'est cet ensemble de choses qui font que l'UBB n'est pas au sommet de sa confiance.
Et n'est peut-être pas le grand favori finalement de ce barrage, malgré sa meilleure position à l'issue de la saison. Le Racing qui fait presque figure d'épouvantail. Je parlais de dynamique, justement. Les Franciliens, eux, ils viennent de remporter un quasi huitième de finale contre Toulon. Ils n'ont plus rien à perdre.
Ah, si, quand même. Parce ouais. que là, s'ils perdent, c'est une saison
vraiment loupée, ouais.
Loupée pour eux. Je veux dire, quand on ambitionne d'être champion d'Europe et champion de France en début de saison, qu'on termine battu en demi-finale
et en barrage
en top 14, je pense que Jackie Lorenzetti, pour lui, il risque de faire grise mine. Hein, donc,
oui, mais vu de leur situation à l'issue de la saison régulière.
À la différence de l'UBB, ils n'ont jamais été leader, le Racing. Ils n'ont jamais marché sur le championnat. Et ils n'ont même pas fait
Bordeaux,
la même
ils ont été dans le
Moi, je pense que tout est remis à zéro. Voilà. Tout est remis à zéro en barrage. Je veux dire, c'est une nouvelle saison qui démarre. J'ai souvenir de quelques clubs, notamment en 2015, le Stade français, pour les avoir suivis, hein, qui avait terminé, je crois, quatrième de la saison régulière, avec une saison très, très peu linéaire, et finalement, sur trois matchs, qui avait marché sur tout le monde. C'est arrivé aussi avec Castres, qui avait fini sixième et qui avait été champion de France. Tout est remis à zéro de ce point de vue-là. Donc, autant sur le premier barrage, moi, je voyais effectivement un léger avantage au Stade toulousain, notamment psychologique. Autant sur ce barrage-là, c'est extrêmement compliqué, parce que Christophe Furios, on le disait tout à l'heure, voilà, a piqué ses cadres, et probablement qu'il y aura une réponse. Et à côté de ça, c'est vrai que le Racing, quand ça tourne à plein régime, il y a quand même une ligne de trois quarts assez impressionnante. Maintenant, faut voir comment le jeu d'avant va répondre face au Bordelais. Ça, je sais pas, Emmanuel, il y a beaucoup d'observateurs qui disent notamment que le pack francilien est un peu trop léger, notamment à l'approche des phases finales. Qu'est-ce que t'en penses?
Écoute, Arnaud, les exemples que t'as cités, ils étaient vraiment pas favoris quand ils sont arrivés sur ces phases finales. Mais par contre, ce qui s'est passé pour ces équipes-là, c'est que sur un match de barrage éliminatoire, ils ont pris confiance. Il y a quelque chose qui s'est passé, un déclic, une envie. On parle souvent d'envie sur les matchs de phase finale et c'est souvent les équipes qui ont le plus envie, qui ont le plus d'appétit, qui gomment beaucoup de défauts et qui marquent l'adversaire et qui jouent en avançant, qui arrivent à gagner ces matchs couperés, à rouler sur tout le monde, pour reprendre une expression chère à Hugo Mola. C'est pas tellement sur la tactique ou sur l'organisation ou sur la stratégie. Donc, à voir comment ces deux équipes-là vont entrer sur le terrain. Est-ce qu'elles vont entrer avec beaucoup d'envie, de férocité, ou est-ce qu'il va y avoir un jeu d'un peu d'observation? Pour revenir sur le Racing, oui, ben on le connaît. Hein, on dit souvent que le rugby commence devant et finit derrière, mais moi j'ai toujours dit que le rugby commençait devant et finissait devant.
Enfin, ils ont bien répondu présent dans cet exercice, dans ce secteur.
Contre Toulon, quand même. C'est vrai.
Et sur le dernier match, ils ont quand même répondu présent. L'UBB, on l'a vu aussi depuis que Christophe Furios est arrivé. Ils ont changé cette dynamique d'avant avec un paquet d'avant dominateur, conquérant. Et après, c'est vrai qu'ils ont une ligne de trois quarts de feu. Voilà, ils n'ont pas trouvé la bonne carburation cette année. Les planètes ne sont jamais vraiment alignées, sauf en début de saison. Et voilà, un coup, c'est les avants qui faillissent un peu. Un coup, c'est les trois quarts. Et à voir si sur ce match-là, avec l'euphorie, la pression, le public, est-ce que l'UBB va réussir à aligner les planètes, c'est possible, mais moi je pense que l'équipe du Racing qui arrive masquée va être quand même dangereuse.
Ouais, d'autant que Bordeaux à domicile n'a pas vraiment brillé ces derniers temps et que le Racing était venu s'imposer au mois de février sur le terrain des Bordelais. Des Racingmen qui sont toujours là en phase finale. Je regardais cette statistique, c'est la 13e qualification consécutive en phase finale pour cette équipe, toujours brillante, pas toujours sacrée, pas souvent sacrée à l'arrivée, mais toujours placée quand même.
Non, pas souvent sacrée, notamment en Coupe d'Europe, où ils ont loupé la marche trois fois, je crois. Et derrière, c'est toujours compliqué de se reconstruire. Il y a eu pas mal de choses qui ont été tentées, l'apport de stars ou de superstars qui n'ont pas forcément amené ce qu'ils devaient amener. Finalement, on s'est recentré un peu sur la formation et on a fait monter quelques éléments précieux du club. Donc, on a vu aussi qu'il manquait par moment un peu de solidité devant. Donc, on a fait appel à notamment Yakané, mais qui joue pas. On a fait appel, voilà, on a essayé de renforcer un peu, d'alourdir le pack, mais on sent pas qu'on a encore trouvé vraiment la bonne identité du
on
côté
se souvient
du,
qu'en,
du
en
Racing.
En début de saison, ils avaient vachement insisté sur l'agressivité. Ils en avaient marre de passer pour les mecs gentils. Ils voulaient se débarrasser de cette image de Bobo du 92. Ils avaient spécialement fait venir Baptiste Pesanti, qui est un deuxième ligne clairement de devoir. Ils ont recruté Didier Cazadei, l'ancien entraîneur des Avants de Brive, qui est connu aussi pour son exigence et sa...
Également côté rustique.
Sa bonhomie, mais son côté rustique qui est super, super agréable, mais qui aime les packs comme Brive, comme il a pu en façonner à Brive. Et c'était, je vous rappelle, c'était vraiment le maître mot de cette équipe en début de saison. Et c'est vrai qu'on a Arnaud pourra peut-être confirmer ou pas, parce qu'il les a davantage suivis que moi. Mais c'est vrai que cette férocité, elle a été pas mal sur courant alternatif, quoi. On a senti parfois un Racing très agressif devant et parfois pas du tout.
Oui, en fait, bon, moi, il y a un baromètre au Racing qui est Bernard Leroux. Bernard Leroux, quand il est là, j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément toujours le même paquet d'avant. Après, et là, je rejoins Emmanuel sur l'absence claire d'identité au Racing. Et faut saluer quand même le travail qui est fait au niveau de la formation, parce que Emmanuel disait quelques éléments de la formation qui sont sortis. C'est pas quelques, c'est une tripotée. Enfin, je veux dire, quand on regarde Colin Gare, Bobigny, Colombe, Diallo. Il y en a vraiment une voilà, ouais, non, mais je parlais notamment dans le paquet d'avant. Donc, il y a un travail colossal qui est fait au niveau de la formation du Racing. D'ailleurs, on voit qu'ils commencent à se faire piller leurs meilleurs jeunes, puisque Colombe part à La Rochelle et je ne sais plus qui encore doit partir. Mais je pense qu'il y a un côté, il y a cette image qui leur pèse et dont ils ont du mal à se défaire. C'est ce côté, effectivement, comme l'a dit Simon, et je suis en plein dedans, un peu côté un peu bobo du 92. Elle leur colle au basque, cette étiquette. Peut-être qu'ils gagneraient
bobo,
de temps en temps.
Juste bourgeois. Hein.
Je vous laisse juger,
bobo,
monsieur Canton.
Plus le stade français, finalement.
Ah
bon,
ouais.
Bon, ça, c'est un autre débat, on ne va pas rentrer sur le derby parisien, mais peut-être qu'ils gagneraient à aller s'entraîner deux, trois soirs par semaine dans la boue, à Colombes, à faire des mêlées pendant 40-45 minutes. Peut-être avec que ça leur ferait du bien, je sais pas. Voilà. Non, mais peut-être que ça leur ferait du bien. Peut-être que effectivement, ils ont besoin de s'endurcir. Mais après, bon, voilà, quand on regarde ce qu'ils ont fait contre Toulon, ah, ils sont tous au ridicule. Hein, je veux dire, ils ont quand même, voilà, ils ont battu Toulon après un début de match assez difficile où ils ont été pris à la gorge par les Toulonnais. Ils étaient pris au score et ils ont su revenir. Parce que de toute façon, enfin, on va pas se mentir, dans cette équipe du Racing, il y a énormément de talent quand même. Enfin, je veux dire, et en plus, il y aura peut-être un facteur X, c'est que Virimi Vakatawa revient très très bien et la paire Fikou Vakatawa peut faire vite du dégât.
Qui a la clé de ce match d'ailleurs, si on devait sortir un joueur?
Le gardien du stade, non?
Ah, j'ai non, pas osé la faire. Désolé.
Est-ce que c'est un garçon comme Jalibert, par exemple? Est-ce qu'il y a un joueur à sortir du lot qui peut déverrouiller ce genre de match?
Bah, des deux côtés, il y a des joueurs qui sont capables de faire des différences et de marquer des essais tout seul. Forcément, il y a Mathieu
Cordero.
Gérard. Après, du côté du Racing, il y en a plusieurs. Donc, mais ce sont aussi des joueurs qui peuvent ne pas faire gagner leur équipe ou qui peuvent faire perdre leur équipe, pour le dire autrement, parce qu'ils sont capables aussi de passer à côté et de faire des grosses cagades. Donc, c'est là toute la beauté de ce match.
Et je me souviens de l'exemple de Djudje Setony l'année dernière. C'était quoi? C'était en demi-finale contre Toulouse, où il fait une passe lumineuse qui offre un essai. Et quelques minutes plus tard, qui prend un carton rouge. Et voilà, qui laisse son équipe à 14. Ouais.
Bon, le match, ce sera dimanche à 21h. Un favori pour vous, messieurs? Allez, Simon.
Bordeaux, je pense.
Arnaud?
Franchement, sur ce match-là, c'est très compliqué. Sur la dynamique, il y a une équipe qui vient de perdre à Perpignan, qui est 13e du top 14, et une autre qui vient de battre Toulon, dont on disait que ça pouvait être l'épouvantail. Donc, si je m'en tiens uniquement à ça, je mettrais le Racing, mais je mettrais pas un billet, je mettrais juste une pièce. Hein.
Pas comme Marco, alors.
C'est ça.
Et toi, Emmanuel?
Moi, je pense qu'il y a avantage pour Bordeaux, parce que je pense que Christophe Furios, il va faire en sorte que son équipe soit au rendez-vous.
Après avoir bien énervé ses internationaux.
Après, ça peut aussi produire l'effet inverse.
Ça marchait si bien avec Imanol.
Ça peut aussi exister, ça, que les joueurs carrément soient agacés, si, tellement vexés, comme disait Imanol, mais qu'ensuite, ça devienne néfaste, quoi, je veux dire. Ça aussi, ça peut se produire. Mais bon, on verra.
De quoi? Une énergie négative?
Ouais, que vraiment, que ça, s'ils n'ont pas vraiment mis les choses au clair, bon, apparemment, ils ont eu une discussion, voilà, les joueurs individuellement avec leur manager Christophe Furios, mais ça peut aussi créer une énergie néfaste. Bon, on verra.
Non, on verra, on aura la réponse dimanche à partir de 21h. On va terminer, messieurs, avec l'Access Match, un nom barbare pour un barrage qui a su s'installer dans le rugby français depuis maintenant quelques années. Je rappelle le principe, le 13e de Top 14 se déplace sur la pelouse du finaliste du championnat de Pro D2 avec pour enjeu le dernier ticket pour le Top 14. Cette année, Perpignan jouera donc son maintien sur la pelouse du Stade Montois, sèchement battu dimanche dernier par Bayonne en finale. Alors là, clairement, on a deux trajectoires opposées. Hein. Perpignan vient de battre Bordeaux, l'une des meilleures équipes du top 14. Le Stade Montois, de son côté, semble marqué par sa très lourde défaite en finale contre Bayonne, 49-20. Il semble quand même y avoir un clair favori qui se dégage de ce match, non, Emmanuel ? C'est l'USAP.
Oui, clairement. En plus, l'USAP, qui l'a dit, l'a répété, qui depuis le début de la saison se prépare à jouer ce match. Voilà, ils ont fait ce qu'il fallait malgré tout le week-end dernier aussi pour l'emporter. Ça va quand même se jouer à Mont-de-Marsan.
Ah oui, c'est Mont-de-Marsan, oui, bien sûr.
Ça peut quand même aussi avoir son importance. Hein. Je me souviens du match l'année dernière, Biarritz-Bayonne, dans une ambiance de folie à Biarritz, où les Bayonnais avaient perdu leurs moyens. Donc, ça peut avoir son importance. Est-ce que maintenant, les Montois, qui rêvaient aussi quand même avant tout, je pense, de gagner cette finale pour remporter le titre de champion de Pro D2, est-ce qu'ils ont la volonté de monter en top 14, c'est une autre motivation. Est-ce que les joueurs ont envie de vraiment monter? Il y a une grosse différence entre l'envie de monter et l'envie de se sauver. Ce sont deux pressions totalement différentes. Je pense que les Catalans, ils seront vraiment prêts à jouer ce maintien et à se sauver. Est-ce que les Montois jetteront toute leur force dans la bataille pour aller chercher un match d'accession et monter en top 14? Je pense qu'Olivier, tu étais mieux placé que moi pour répondre à cette question. On sait que par le passé, c'est une équipe qui l'a fait, hein, qui était souvent finaliste, championne, qui est montée à plusieurs reprises.
L'Access Match n'a jamais été remporté par l'équipe de Top 14. Hein, jusqu'à
ouais, c'est ça, il faut ça prendre en considération, mais, ça, mine de rien.
Mais donc oui, avantage pour Perpignan.
Moi, je me permettrais de... Vous venez de rappeler ce point historique très important. C'est vrai que sur les quatre Access Match, ouais, c'est toujours ça. L'équipe de Pro D2 qui l'a emporté. Moi, j'avais eu la chance d'assister à Brive-Grenoble. Mais là où j'apporte un bémol, messieurs, c'est que moi, j'ai l'impression que ce coup-là, l'histoire va changer, parce que j'avais l'impression que sur les précédents Access Match, les équipes de Top 14 qui abordaient cette rencontre, elles étaient usées, lessivées, en plein manque de confiance, elles étaient vraiment éreintées après des saisons de Top 14 où elles n'avaient finalement quasiment pas existé, ou au moins en fin de saison. Et moi, je me souviens des Grenoblois qui s'étaient présentés au stadium de Brive. Et vraiment, on avait vraiment deux équipes avec des dynamiques totalement différentes. Les Grenoblois étaient rincés. Là, comme l'a dit Emmanuel, cette équipe de l'USAP, non seulement elle se prépare mentalement depuis plusieurs mois à disputer ce match-là, le capitaine Mathieu Acébès, il l'a dit dès la fin du match de la victoire contre l'UBB, c'est leur destin de jouer ce match-là. Non seulement ils l'ont accepté, mais en plus ils l'abordent avec plein de confiance. Ils ont remporté 43 points sur cette saison de Top 14. Ils viennent de faire tomber le deuxième. Ils ont, alors certes après ce sera à Mont-de-Marsan, il faudra gérer cette pression-là, mais je trouve que les Catalans l'abordent avec de bien meilleures situations que l'ont fait les précédentes équipes de Top 14 pour ces Access Match.
Pour moi il y a un paramètre qu'on n'a pas abordé et qui est capital, c'est-à-dire que je pense que Mont-de-Marsan clairement méritait d'être champion de France. Au titre de sa régularité, au titre de l'exceptionnelle saison qu'ils ont fait, pour moi, le titre de champion de France, il est pour Mont-de-Marsan, parce qu'ils ont été quasiment de la première à la dernière journée, ils ont été leaders, ils ont survolé le championnat de Pro D2, et pour moi, un titre de champion de France, ça doit d'abord récompenser cette régularité. Ensuite, chapeau quand même à l'aviron bayonnais, et notamment à Yannick Bru, qui a fait un boulot énorme, et je pense aussi à Jeff Dubois, qui a probablement apporté sa pierre à l'édifice. Bayonne a su magnifiquement bien se préparer, malgré un contexte interne un petit peu... on va dire qu'un petit peu chaotique. Mais en tout cas, voilà, Bayonne est champion de France, monte en top 14 et bravo à eux. Il n'y a absolument rien à dire, notamment sur la finale. Ce serait malvenu de ma part de chipoter quand une équipe gagne avec un tel score. Mais là où je voulais en venir, c'est que Mont-de-Marsan, pour moi, c'est symptomatique de la difficulté du rugby français. Et je rejoins là-dessus Jean-Baptiste Staldiger, le président du BO. Ça ne va peut-être pas faire plaisir à Emmanuel. Mais quand il dit que le top 14 est en passe de devenir une ligue fermée, c'est aujourd'hui clairement quasiment une ligue fermée. Tous les ans, les deux clubs de Pro D2 qui montent se retrouvent 13e et 14e la saison suivante. Donc, c'est qu'il y a forcément un problème. Et aujourd'hui, on peut se poser la question pour Mont-de-Marsan, qui est un des plus petits budgets de Pro D2, est-ce que ce club magnifique, j'ai aucun doute là-dessus, a réellement vocation à monter en top 14?
Est-ce que là, réellement… Tu réponds pas à la question. Est-ce que tu les vois capable de gagner face à Perpignan?
J'y viens.
Ah, c'est la ligne numéro 22, d'accord.
Exactement, j'en termine. Mais est-ce que ce club donc a vocation à monter en top 14? Et est-ce que dans la tête des joueurs réellement, il y a cette envie d'aller prendre des 30 et des 40 grains la saison prochaine, de vivre une saison calvaire? Voilà. Et pour conclure, je rejoins Simon, c'est que Perpignan est dans une très bonne dynamique. Ils viennent de filer quand même, 30 points quasiment à Bordeaux. C'est pas anodin.
Il y a une stat quand même pour donner du courage aux Hollandais. La dernière défaite à domicile du Stade Montois remonte à avril 2021. Ils sont restés invaincus cette saison dans leur stade, Guy et André Boniface. Ça a un impact, ça, encore? Ça joue, l'effet domicile?
Est-ce qu'ils le veulent? Comme disait Arnaud, est-ce qu'ils veulent aller en top 14? Est-ce qu'ils veulent vraiment aller en top 14?
Non, ils auraient pu jouer à Saint-Étienne de Baïgorry ou à Marne-la-Coquette. Les Catalans, là, ils s'en foutent.
Est-ce qu'ils veulent vraiment cette accession en top 14? Moi, franchement, je ne peux pas répondre à la question. Là, je ne suis pas dans leur tête.
Non, le stade, ça ne changera rien. Je veux dire, moi, j'y crois pas. Enfin, les Catalans, ce qu'ils veulent, quel que soit l'endroit où ils vont jouer, ils veulent rester en top 14. Et je crois qu'honnêtement, au regard de la performance qu'ils ont fait, les Catalans méritent leur place en top 14. Ils méritent de rester et de pouvoir travailler un peu dans la continuité. Ouais, rappelle juste quand même qu'ils ont fait leur boulot dimanche, contre Bordeaux. Et que si le Stade français avait fait le sien, peut-être que Brice se serait retrouvé à la place de Perpignan le week-end prochain. Donc,
Bon, le barrage aura lieu.
Olivier, j'ai une question pour toi, parce que j'ai ouï dire quand même que les Montois, même s'ils avaient gagné la finale, auraient refusé l'accession. Est-ce que c'est vrai ou pas?
Ah bon, écoute, moi, genre là, j'ai jamais entendu ça. C'est vrai, t'as entendu ça, toi?
Ouais.
Je crois que t'es bien informé, Manol.
Ah ouais? Non, j'ai entendu ça. Après c'est possible, mais c'est pour ça que dans mon propos, je te disais que je pense qu'ils avaient vraiment envie de gagner cette finale, d'être champion d'Europe, d'être champion de Pro D2 pour récompenser, comme a dit Arnaud, leur saison exceptionnelle.
Franchement, ça m'étonne ce que tu me racontes là, Emmanuel. Bon, enfin,
d'où ma tirade sur la volonté et la vocation de ce club.
Oui, la vraie volonté après maintenant des joueurs en rentrant sur le terrain de se battre pour monter en top 14. C'est vrai que c'est un autre état d'esprit, c'est autre chose. C'est une équipe quand même qui est plus souvent pro qu'en top 14. Donc, est-ce que les joueurs ont vraiment envie de… C'est différent des années passées où il y avait des équipes qui avaient évolué en top 14, qui voulaient retrouver le top 14 absolument, qui ont tout fait pour gagner ce match. Donc, je pense que ça sera un contexte différent. Ouais.
Bon, on verra ça. Ce sera donc dimanche à 17h45. Ce sera très chaud à Mont-de-Marsan, d'autant qu'on annonce, je crois, pas mal de supporters catalans qui vont faire le déplacement avant de se quitter quand même pour terminer sur cette Pro D2. Toi, Emmanuel, le Biarro, un mot sur quand même le titre de Bayonne. Arnaud en a parlé rapidement. Le pari est réussi pour Yannick Bru et Jeff Dubois avec cette remontée immédiate. Il quitte le club, ce sera Grégory Patate qui va prendre le relais la saison prochaine en top 14. Un mot sur la performance de l'Aviron quand même.
N'en déplaise à Arnaud, je n'ai pas que des mauvais pronostics. J'avais donné un avantage pour Bayonne parce que je l'ai senti vraiment sur une très bonne dynamique. Et puis un peu vexé aussi d'avoir perdu les deux matchs de poule. Voilà, ils ont réalisé une finale magnifique portée par tous leurs joueurs. Une bonne dynamique aussi, je crois qu'ils sont arrivés la bonne dynamique au bon moment avec un banc aussi qui a apporté énormément sur les derniers matchs. Et puis voilà, moi je suis très heureux pour Yannick Bru et bien sûr Jeff Dubois. Qui ont réalisé quand même, notamment Yannick Bru, il a fait monter deux fois l'aviron en deux ans.
Le titre de champion, c'est pas rien, c'est pas anodin.
C'est quand même assez exceptionnel. Voilà, je pense qu'il il part le cul propre, comme on dit, surtout dans un contexte un peu plus que compliqué. Et la tâche va être lourde, ouais, mais voilà, c'est un club aussi en construction et des infrastructures assez incroyables. Voilà, le défi s'annonce aussi immense pour Grégory Pata, mais je pense qu'il a les outils en tout cas pour pouvoir espérer se maintenir en top 14. Ouais. Mais c'est vrai que c'est toujours très très compliqué, voilà, quand on monte comme ça au dernier moment de se battre, en tout cas de rivaliser avec les meilleurs.
Et pas de derby basque.
Ça sera pas simple. Hein. Pardon,
pas de derby basque en Pro D2.
Ah non. Pas de derby basse, mais ce sera pas simple, surtout pour Grégory Pata, quand même, de prendre la succession de Yannick Bru, parce que le boulot qui a été réalisé quand même en 3 ans était assez colossal. Et j'ai même entendu Mourad Boudjelal, pourtant qui a jamais été très tendre avec Yannick Bru, lui rendre un très très bel hommage sur le travail effectué avec Bayonne.
Eh bien, messieurs, voilà, c'était un riche programme, comme annoncé. Vous avez été parfait. On fera les comptes hein, ce week-end et puis on se retrouvera la semaine prochaine. On verra qui a eu raison ou tort. On suivra ça de près. J'espère vous retrouver. Emmanuel, toi, tu es là, en tout cas, c'est sûr. Fidèle au poste.
J'espère que vous avez bien noté les pronostics d'Arnaud Bordelé parce qu'on ne le voit pas souvent. Donc...
Et je reviens dans un mois maintenant, après un mois de vacances. Je reviens après la finale.
Allez, salut à tous, à la semaine prochaine.
Salut.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.